Et l'on va débuter les matins, et bien par exemple par le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La vie politique a repris son cours aux États-Unis, mais dans une fébrilité rare au Congrès, alors que les élus doivent certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Fébrilité après le choc et l'intrusion hier soir au Capitole à Washington de centaines de partisans de Donald Trump. Ils voulaient bloquer le processus démocratique. Nos envoyés spéciaux étaient au cœur du chaos. Reportage et analyse dès le début de ce journal.
Et puis nous nous demanderons comment les États-Unis en sont arrivés là. Quel rôle a joué la police et comment des partisans de Trump peuvent encore le suivre sur le terrain de la contestation électorale.
À la une en France, les vaccins, la réouverture des bars et des restaurants, des lieux culturels, autant de sujets sur lesquels le gouvernement est attendu. Ce soir à 18h, le Premier ministre Jean Castex doit donner plus de visibilité. C'est ce qu'a promis hier le porte-parole du gouvernement, vous l'entendrez.
Et puis la question du jour, ça sera dans une dizaine de minutes, Catherine. On va revenir sur un signal de la situation économique parfaitement inédite que nous vivons, les records sur le prix du Bitcoin. Le Bitcoin, vous savez, c'est cette crypto-monnaie. Pourquoi cet engouement? Je poserai la question à Ludovic Desmet. Il est professeur d'économie à l'Université de Bourgogne.
Washington sous état d'urgence pour 15 jours, soit jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump. C'est la mesure préventive qu'a prise la maire de la capitale fédérale des États-Unis pour parer au besoin à d'autres manifestations après ces scènes incroyables hier soir dans le cœur démocratique d'un pays qui se veut un modèle pour le reste du monde. Des centaines de partisans de Donald Trump ont réussi à pénétrer à l'intérieur du Capitole à Washington, brisant des vitres et des portes dans le siège du pouvoir législatif, interrompant la certification des résultats de la présidentielle de novembre. Une femme a été tuée par la police, une ardente partisane du président Trump qui vivait à l'autre bout du pays, à San Diego en Californie. Elle avait fait le déplacement jusqu'à Washington, encouragée comme d'autres par Trump ces dernières semaines et même dans l'après-midi lors d'un meeting devant la Maison Blanche pour dénoncer une élection truquée. Un chaos inédit et notre correspondant Sébastien Paour était au milieu des manifestants quand ils ont envahi le Capitole.
Il est environ 14h30 et comme des supporters descendraient sur la pelouse d'un stade, les électeurs de Trump grimpent l'escalier de pierre qui mène sous la coupole du Capitole. Josh a fait 13 heures de route depuis la Floride pour soutenir Trump. Il n'en revient pas. Ils essayent d'entrer dans le Capitole, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas, ça devait être pacifique. Je ne sais pas, j'imagine qu'on en a marre. Je suppose qu'ils pensent qu'ils se feront justice, ils pénètrent à l'intérieur, je ne sais pas. Mais la tempête est là et je ne peux rien faire. L'homme qui porte un grand drapeau Trump à côté de lui reste aussi en bas des marches. Mais ils s'adressent aux élus à l'intérieur. Ils travaillent pour nous, nous ne travaillons pas pour eux. C'est notre capital, pas le leur. Nous les avons mis là. Il est temps pour eux de réaliser qui est leur patron. C'est le peuple américain. Des cris, quelques vitres cassées, et dans la fumée des grenades lacrymogènes, les premiers ressortent. À l'intérieur, il y a une révolution en cours. On a poussé jusqu'en haut de l'escalier principal et directement dans le bâtiment. C'est un peu sauvage, mais nous sommes un pays libre. Nous sommes libres. Nous avons des droits par Dieu, pas par le gouvernement. La nuit tombe et avec elle le couvre-feu, on se disperse lentement. Certains promettent déjà qu'il y aura encore plus de monde dans 2 semaines pour l'investiture de Joe Biden.
Reportage signé Sébastien Paour. La garde nationale, le FBI et la police ont donc été déployés à Washington, protégeant encore le Capitole ce matin où, je le rappelle, une femme admiratrice de Trump a été tuée hier. 3 autres personnes sont mortes aux alentours du bâtiment fédéral. On n'en sait pas plus sur les causes de leur décès ni s'il s'agissait de manifestants. Le FBI indique par ailleurs avoir désarmé hier 2 engins explosifs. Mais comment en est-on arrivé là? Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Catherine.
Vous êtes l'envoyé spécial permanent de France Culture à Washington. Vous avez couvert nombre de manifestations politiques, de discours de Donald Trump. Alors, comment expliquer le chaos d'hier soir? Est-ce l'aboutissement logique d'une présidence qui n'a cessé de nier des faits, la réalité électorale? Ou bien y a-t-il eu un élément de surprise tout de même? Et qu'a fait la police, Grégory, police capable d'être présente pour des manifestations comme Black Lives Matter?
Écoutez, revoyons la chronologie des faits. Hier matin, 11h, face à la pelouse sud de la Maison Blanche, Donald Trump organise ce meeting intitulé « Save America, sauver l'Amérique ». Et là, que répète-t-il à ses partisans? Ce qu'il dit depuis 2 mois maintenant, et bien que le résultat de la présidentielle leur a été volé. Et il appelle d'ailleurs ses supporters à marcher jusqu'au Capitole, qui se trouve à quelques centaines de mètres seulement, peut-être un kilomètre. On est, notez bien, 2 heures seulement avant le début de la certification par le Congrès des résultats de cette présidentielle de novembre. Et là, effectivement, on a vu ces milliers de partisans de Trump converger vers le bâtiment du Capitole, ambiance tendue, puis d'un seul coup, la foule se met à pousser. Et elle déborde, c'est vrai, très vite, les officiers de la police du Capitole, qui n'étaient pas assez nombreux, et des centaines de personnes parviennent à pénétrer dans le bâtiment, le lieu le plus symbolique peut-être de la démocratie américaine, bureaux saccagés, manifestants sous la coupole, dans la salle du Sénat, dans celle de la Chambre des représentants, d'où les parlementaires ont dû être évacués en urgence. On entend effectivement un ou plusieurs coups de feu, et cette manifestante pro-Trump est tuée par le tir d'un policier dans des conditions qui restent à éclaircir, alors que le chaos règne encore au Capitole, dans le cœur de la capitale fédérale, le président élu Joe Biden intervient depuis son fief de Wilmington dans le Delaware.
Notre démocratie subit un assaut sans précédent. Nous sommes face à un petit groupe d'extrémistes, partisans de l'anarchie. C'est indécent. C'est le désordre, le chaos, à la limite de la sédition. Et ça doit s'arrêter maintenant. Je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, les mots d'un président comptent, que ce président soit bon ou mauvais. Au mieux, ces mots peuvent être une source d'inspiration, au pire, ils poussent à la violence.
Quelques minutes plus tard, c'est depuis la Maison Blanche et dans une très courte vidéo que le président sortant, Donald Trump, prend la parole.
C'était une élection frauduleuse. Nous ne pouvons pas nous laisser manipuler par eux. Nous devons retrouver la paix, donc rentrez chez vous. Je vous aime, vous êtes formidables. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu comment les autres ont été traités? Tellement mal et tellement méchamment. Je sais ce que vous ressentez. Mais rentrez chez vous et restez calme.
Vous l'avez entendu, Catherine, Donald Trump qui appelle ses sympathisants à rentrer chez eux dans le calme, mais qui encore une fois est dans le déni de sa défaite à la présidentielle, incapable visiblement d'affronter la réalité.
Un message jugé suffisamment dangereux, Grégory, pour que Twitter décide de suspendre le compte du président pendant 12 heures, une mesure assez rare pour être soulignée. Alors, dans ce contexte, la vie politique reprend malgré tout son cours, Grégory, avec la certification de la victoire de la présidentielle de Joe Biden au Congrès.
Oui, le calme est finalement revenu au Capitole en début de soirée et vers 20h, heure de la côte Est, les deux chambres, Sénat et Chambre des représentants, ont finalement repris leurs travaux. Au moment où on se parle, le Congrès réuni examine état après état le résultat du vote des grands électeurs. En début d'après-midi hier, la procédure avait été interrompue, évidemment, quand les manifestants se sont introduits dans le Capitole. Elle a donc repris. Elle va durer encore un peu, car les sénateurs républicains viennent de contester par exemple le résultat de la Pennsylvanie, ce qui retarde encore un peu le processus, sans doute de quelques heures, mais très tard ce soir ici à Washington, ou alors demain matin, le vice-président Mike Pence finira par certifier la victoire de Biden et la défaite de Trump, quoi qu'en dise ou quoi qu'en pense le président sortant.
Et j'ajoute, merci beaucoup Grégory Phillips pour toutes ces explications en direct de Washington. J'ajoute que le Sénat bascule donc à droite après la victoire, dans le camp des démocrates après la double victoire du camp de Joe Biden lors d'une double sénatoriale. C'était hier en Géorgie. Y aura-t-il de nouveaux couvre-feux? Quel calendrier pour la culture, la restauration et les stations de ski? Jean Castex va tenter ce soir à 18h de donner plus de visibilité au secteur touché par la crise sanitaire avant de prendre peut-être des mesures plus lourdes la semaine prochaine. Mais hier, le porte-parole du gouvernement a tenté de revenir sur la politique mise en place par l'exécutif. Les explications d'Antoine Marette.
En novembre dernier, Emmanuel Macron avait esquissé un calendrier de déconfinement très précis, avec différentes étapes, sauf que les mauvais chiffres du Covid-19 ont changé la donne. Dès lors, comment donner un horizon aux Français sans risquer de se contredire quelques semaines plus tard? Pour le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, tout est d'abord une question de vocabulaire. Ne dites plus calendrier, mais visibilité.
Le président de la République, dans son allocution à la fin du mois de novembre, a donné de la visibilité pour les acteurs économiques de notre pays qui l'attendaient. Et vous savez qu'il est difficile de donner une visibilité dans le contexte d'une épidémie dont nous voyons que chez nous, comme chez nos voisins européens, comme partout dans le monde, peut surgir, ressurgir, circuler moins fortement. Mais parce que nous entendons cette demande de visibilité. Plusieurs rendez-vous ont été fixés. Le rendez-vous du 15 décembre, il y a eu le déconfinement et la mise en place du couvre-feu. Mais pour un certain nombre d'acteurs qui espéraient rouvrir à cette date, ça n'a pas été possible, malheureusement. Et donc, un rendez-vous de revoyure a été fixé. Le Premier ministre s'expliquera sur ce sujet. Évidemment, avec le même souci de donner le plus de visibilité possible aux acteurs.
Et ces acteurs qui sont en attente, ce sont en particulier ceux du monde culturel. À défaut d'un calendrier donc, ils vont devoir se contenter ce soir de visibilité.
Au Liban, ce matin, le pays entre pour la troisième fois dans un confinement avec en moyenne 3000 nouveaux cas de Covid-19 par jour pour 4 millions d'habitants. Le taux de positivité des tests atteint 15%, un taux trop élevé. Le pays sera donc bouclé jusqu'au 1er février, y compris les écoles, avec un couvre-feu de 18h à 5h du matin. La correspondance à Beyrouth d'Aurélien Colli.
Bientôt, on parlera du scénario libanais. Les mots sont d'Abdelrahman Bizri, spécialiste en maladies infectieuses, cité par le journal L'Orient le Jour, pour décrire un Liban parmi les meilleurs élèves lors de la première vague du printemps, mais devenu l'un des pires face à la troisième qui s'abat en ce début d'année. Malgré les mises en garde répétées du secteur médical, le pays s'est laissé submerger. Faute de gouvernement stable et de stratégie nationale claire, estime le scientifique. Faute aussi d'état solide pour appliquer les mesures sanitaires ou pour indemniser. Faute enfin de discipline et de responsabilité des Libanais. Sous la pression des acteurs économiques, eux-mêmes asphyxiés par la crise qui frappe depuis un an, par l'explosion dans le port de Beyrouth ou par les précédents confinements, quasiment toutes les restrictions Covid ont été levées pour les fêtes de fin d'année. Résultat, réouverture des restaurants, des bars, des boîtes de nuit, ambiance marché de Noël, réunion de famille et fêtes entre copains pour finir 2020. Une bulle d'air dont avaient certainement besoin l'économie et les Libanais après une année noire, mais qui se paie cash en ce mois de janvier. 4000 cas positifs hier, nouveau record. Les capacités en soins intensifs des hôpitaux publics sont saturées et le pic de contamination n'est pas encore atteint. Une situation catastrophique, estime aussi le chef des urgences de l'Hôtel Dieu, l'un des établissements privés qui a ouvert des lits Covid à Beyrouth.
Aurélien Colli, au Liban pour France Culture. Le temps de ce jeudi 7 janvier partagé entre grisaille et éclaircie. Au meilleur de la journée, il fera entre 1 et 12 degrés du nord au sud de Guillaume Erner.
Merci. Catherine Dutu, dans une dizaine de minutes, le reportage de la rédaction consacré à un projet qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de lait aussi, la ferme dite des 1000 vaches, située près d'Abbeville dans la Somme, vient d'arrêter sa production laitière. Et puis dans quelques instants, la question du jour, les records sur le prix du Bitcoin, cette crypto-monnaie.